Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Des bombardements en plein cœur de Beyrouth. Pour la deuxième fois, l'aviation israélienne a frappé la nuit dernière la capitale libanaise. Un centre de secours du Hezbollah a été détruit, faisant au moins 6 morts.
Israël vient jusqu'ici et tue des gens. Mais à la frontière, des combattants du Hezbollah ont éliminé des soldats israéliens.
Dans le sud du Liban, au moins 8 soldats israéliens ont été tués hier dans des combats au sol. Tsahal continue d'y bombarder des positions du Hezbollah pro-iranien, qui lui tire des roquettes sur le nord de l'État hébreu.
Nous sommes au cœur d'une guerre difficile contre l'axe maléfique de l'Iran, qui cherche à nous détruire.
Mardi, l'Iran a tiré sur Israël quelques 200 missiles, pour la plupart interceptés. Cette attaque, saluée par les proches du régime des Mollahs, a été lancée pour venger la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et celle du chef du Hamas palestinien.
Et si maintenant Israël veut répliquer, notre réponse sera encore plus forte.
Ces menaces croisées de représailles inquiètent le secrétaire général de l'ONU, qui lance un nouvel appel à la fin des hostilités.
Il est grand temps de mettre fin au cycle écœurant de l'escalade qui est en train de conduire les peuples du Moyen-Orient vers le précipice.
Depuis le 7 octobre 2023, depuis la sidération, après les attaques, les meurtres et les enlèvements du Hamas, depuis la riposte de l'armée israélienne qui a fait plus de 40 000 victimes civiles dans la bande de Gaza, la régionalisation des tensions éloigne l'idée même d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Alors comment sortir de cet engrenage? Un an après le 7 octobre, le Proche-Orient est-il figé dans une impasse? Où la paix y a-t-elle encore un avenir?
Deux intellectuels, deux témoins pour ce débat. Denis Charbit, bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Open University en Israël. Votre dernier ouvrage, Israël, l'impossible état normal, vient de paraître chez Kalman Levy. Selon vous, le massacre du 7 octobre a été un tournant dans la perception que les Israéliens se font du conflit israélo-palestinien. La méfiance envers les Palestiniens n'a jamais été aussi intense. Et vous relevez qu'elle est devenue un axiome et que cela ne changera pas tant que les otages ne seront pas libérés. Et nous avons avec nous Elias Sambar, bonsoir, écrivain, bonsoir. Diplomate palestinien, traducteur du poète Mahmoud Darwish, entre autres. Vous avez publié La dernière guerre dans la collection Tracts de Gallimard au printemps. Selon vous, Israël rêve d'un règlement définitif, non pas de la guerre avec le Hamas, mais de la question de la Palestine en tant que telle. On va en parler tout à l'heure et puis de quelles solutions politiques. Mais une question à vous, Elias Sambar, pour ouvrir le débat, puisque vous avez grandi, vous avez passé des années à Beyrouth.
J'ai grandi à Beyrouth, ma mère est libanaise.
Votre mère est libanaise.
Mon père est palestinien, ma mère est libanaise.
Et que vous inspire ce deuxième front ouvert par l'armée israélienne au sud Liban avec incursion terrestre et déjà quantité de blessés et de morts?
Très honnêtement, j'aurais été très étonné que ça n'arrive pas. Je pense qu'on est entré dans une sorte de succession de terrains de guerre qui, au fur et à mesure que l'un n'arrive pas à produire une victoire, on voit les troupes basculer vers un deuxième. Il y a eu la guerre à Gaza qui continue. Il n'y a pas eu moyen, au bout d'un an, d'annoncer une victoire. On a basculé avec les colons en Cisjordanie, Jérusalem-Est. Ce n'est pas si simple. Il n'y a pas moyen de déclarer on a gagné, donc pour arrêter. On a passé sur le front Sud-Liban et Galilée. Et maintenant, on est face à une bascule possible vers l'Iran. Le grand, grand problème, c'est que nous sommes confrontés à deux types de guerres de nature différente. Israël ne peut mener que des guerres éclairs. C'est fondamental. Les Arabes, les adversaires ont les moyens de mener des guerres d'usure. Et c'est ce qui est en train de tout le temps de faire basculer. Et c'est pour cela que je pense que le fait, et Denis et moi, nous avons été des partisans très actifs de la question des deux États.
On va y venir.
Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe est en train de réduire cette idée des deux États à une chimère.
On va y revenir. Oui. Et vous, Denis Charbit, votre sentiment en tant qu'Israélien, cette fois, alors que votre pays vient d'être visé par une attaque de l'Iran? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui?
Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'elle n'est pas calculée, elle n'est pas réglée comme celle du mois d'avril dernier. Alors c'est vrai que les résultats de cette frappe ont été mineures par rapport aux craintes qu'on pouvait exprimer. Mais cela veut dire quand même qu'Israël, qui a fondé, je dirais, toute sa politique sur sa sécurité, on pourrait presque dire qu'elle n'a pas de politique, elle n'a que l'objectif de sa sécurité, eh bien cette année, hein, puisqu'on arrive presque au 7 octobre, eh bien cette année, à trois reprises, la souveraineté israélienne aura été violée. Et je dirais que quand Netanyahou a toujours prétendu qu'il était monsieur sécurité, je dirais que là, il y a un échec absolument terrible.
Un échec patent. Vous diriez, comme la romancière israélienne Zeruya Shalev, dans Le Point ce matin, notre pronostic vital est engagé.
Oui, il est engagé. Je connais bien Zeruya Shalev et j'apprécie son œuvre et son engagement qui est relativement récent, parce qu'en général, elle était romancière et ça traduit justement ce sentiment que quelque chose est en train de tourner. Et c'est à la fois la manière dont le gouvernement israélien place tous les Israéliens dans des situations impossibles, dans des dilemmes inconcevable. C'est aussi un embrasement général. Et moi, ce qui me trouble ou ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je sais que Netanyahou, pour lui, et certains d'ailleurs lui ont reconnu, il a été le premier dans les années 90 à pointer la menace iranienne. Et d'une certaine manière, pour lui, les conflits qui ont jusqu'à présent face au Hezbollah, face aux Houthis, face au Hamas, c'est pas ça l'essentiel. Et donc je redoute effectivement cette sorte de mégalomanie qui lui permettrait de croire que ça se terminera par une victoire. Or, ce n'est pas le cas.
Il faut ajouter une constante quand même. C'est très dangereux de réduire toute cette crise à des éléments caractériels chez Benjamin Netanyahou.
C'est-à-dire.
Il y a autre chose quand même d'infiniment plus grave. L'État d'Israël ne veut pas les deux États. Il y a des Israéliens qui sont pour les deux États. L'État d'Israël, de façon continue, systématique et absolument bien, bien, bien efficace, a mis en échec la question des deux États depuis que le principe a été énoncé. Ce que nous voyons là également dans cette fuite en avant, c'est l'idée que plus on fait de guerre, plus ce fantôme, ce terrible,
s'éloigne.
Même quand il y a eu l'accord d'Oslo, même quand il y a eu Tragamine, vous êtes...
Les accords d'Oslo étaient un exemple de la façon de ne pas arriver aux deux États.
Mais vous êtes d'accord avec ça, Denis Charmit?
Là où je suis complètement d'accord avec Elias Ambar, et je suis heureux, je me félicite d'avoir cet accord avec lui, c'est que l'idée que l'État d'Israël, c'est ce que je développe dans mon livre, l'idée que l'État d'Israël puisse maintenir son existence et sa légitimité en niant les droits des Palestiniens à un État à côté d'Israël, cette formule-là ne peut pas fonctionner. Je comprends pourquoi elle a du mal à convaincre, et notamment après le 7 octobre, parce qu'il faut bien comprendre, le 7 octobre a été interprété par les Israéliens de gauche et de droite comme une répétition générale d'une disparition de l'État d'Israël.
Vous avez dit, d'ailleurs, Denis Charbit, l'objectif politique du Hamas est de réduire en miettes le camp de la paix israélien.
Mais je dirais que pour moi, c'est là où, vous savez, je suis tellement accablé par ce qui se passe que j'essaie de ne plus être dans cette attitude qui consiste à parler que pour les Israéliens et pas pour les Palestiniens. Je pense que l'objectif de Sinoir, c'était de déraciner chez les Israéliens
l'idée, le chef du Hamas,
que la paix est possible. Et je pense que la manière de faire la guerre de Netanyahou et de sa coalition extrême, c'est une manière de déraciner chez les Palestiniens l'idée que la paix est possible. C'est pour ça qu'on est au fond du puits et qu'on a besoin de toutes les voies constructives pour remonter la pente.
Il reste un très grand problème qui a été l'excuse inexcusable, qui a toujours été avancée sous la formule. Le problème, c'est les extrémistes des deux bords. Ça a été le meilleur alibi pour que ceux qui puissent agir n'agissent pas. C'est très très simple de dire les extrémistes extrémisent. C'est pas la question.
C'est-à-dire les extrémistes, c'est-à-dire quoi les orthodoxes.
Il y avait dans les deux sociétés des groupes qui ne veulent pas.
Les fanatiques de tous bords.
Mais tous les partenaires qui pouvaient se sont cachés derrière cet argument pour ne rien faire.
À qui vous pensez?
Je pense à toutes les puissances qui ont géré le processus de paix, avec à leur tête les Américains. Je pense que le problème, c'est qu'Israël Je vais vous dire, vous avez parlé d'Oslo. Quand nous avons été à Washington, après l'ouverture de la conférence de Madrid, il y a eu une réunion restreinte.
Donc on est au début des années 90.
Avec des grands représentants de la communauté juive américaine, qui nous ont dit, on est très très contents que vous ayez accepté d'aller à une solution négociée. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas votre sort qui nous importe. Nous sommes très très contents parce que nous pensons qu'il faut protéger Israël de lui-même. C'est fondamental. Et ceux-là n'ont rien fait. Ceux qui, depuis la création de l'État d'Israël, et ils sont très nombreux, ont dit à cet État, fais ce que tu veux, on te couvre, sont en train de le mener à sa propre ruine. Et donc, il y a une responsabilité énorme chez les amis qui ont dit, tu peux faire tout ce que tu veux, ne t'en fais pas. C'est un pays qui a toujours eu un veto dans la poche au Conseil de sécurité.
Alors, Elias Sambar, on va remonter un tout petit peu en amont. Oui. 88, un an après la première intifada, une décision est prise par le Conseil national palestinien, la proclamation de l'État palestinien. C'est notre archive.
Le Conseil national palestinien, au nom de Dieu et du peuple palestinien, proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre, avec pour capitale Jérusalem la Sainte. Tonnerre d'applaudissements, l'émotion est à son comble. Pour la première fois, les contours de l'État que réclament les Palestiniens paraissent un peu moins flous, même si la déclaration du Conseil se garde bien de les préciser. Mais par-delà l'émotion, le Conseil national palestinien vient de franchir un pas décisif de son histoire en votant, à une très large majorité, un appel à une conférence internationale de paix sur la base des résolutions 242 et 338 de l'ONU. Autrement dit, pour la première fois, l'OLP reconnaît implicitement l'existence de l'État d'Israël dans des frontières sûres et reconnues.
Denis Charmide, est-ce qu'elle peut s'envisager encore la paix tant que Netanyahou est au pouvoir et le Hamas aussi, puisqu'on parlait des extrémistes? Alors, après ce qu'on vient de voir, là, on a l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de chemin. On pensait l'avoir fait et finalement non.
Non. Alors, c'est vrai, et je dirais, ce sont, pour ainsi dire, des préconditions. Il n'y aura pas de règlement, de négociation si politiquement la scène ne change pas. En Israël, au sein de l'autorité, parmi les Palestiniens, et là il faut trouver le mécanisme pour permettre de restructurer un leadership palestinien, qu'il soit de l'extérieur ou qu'il soit de l'intérieur. Et puis il faut également que du côté américain, ce ne soit pas Trump qui le remporte au mois de novembre prochain. Si ces trois conditions ne sont pas remplies, on peut toujours discuter
par problème fondamental.
Elias Sambar, là on vient de voir. Oui, Yasser Arafat, qui n'existe plus, qui était le leader charismatique des Palestiniens. Qui les représente aujourd'hui? Le Hamas? Non, qui d'autre?
Non, mon peuple est toujours là et il tient tête depuis un siècle.
Mais qui les représente politiquement?
Nous sommes
Est-ce que le Hamas est le seul représentant?
À le représenter. Le Hamas est une portion, une organisation qui fait partie du peuple palestinien. Nous sommes 13 millions, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que quand nous avons été aux négociations de paix, en principe, et ça on l'a eu, les courriers qui sont arrivés avant de nous envoler par Madrid, ça s'appelait les lettres d'assurance et les lettres des règles du jeu. On devait négocier en permanence avec à la table quatre partenaires. Israël, nous, l'ONU, l'Europe, les Russes, les Américains. On n'a jamais vu les trois premiers. C'était biaisé d'entrée de jeu. La deuxième chose qui est très importante, quand ce vote a lieu, ce qui est voté, c'est bien sûr la négociation, la voie diplomatique, la solution. Ce qui est voté, c'est le principe du partage qui prend la place de la division. L'idée d'un pays partagé. Et c'était cela l'acte, la concession historique palestinienne, parce que, vous savez, moi je suis né en Haïfa. Haïfa ne fait pas partie des plans du partage. Mais moi, je pense que c'est moi qui ai fait un geste historique d'accepter de partager. Vous comprenez? Mais l'idée du partage a été systématiquement coulée et elle a été encore une fois coulée par ceux qui n'étaient pas venus à table, qui ont démissionné de façon systématique, qui n'ont pu faire qu'Oslo. Donne autre chose.
Elias Sambar, ça c'était il y a 30 ans. On va s'intéresser à quel futur possible et on va évoquer avec vous deux et avec Anna une nouvelle coalition internationale qui vient d'appeler à une solution à deux États. Pour la faisabilité, on en parle après.
Oui, la solution à deux États est la meilleure solution pour briser le cycle du conflit et de la souffrance. C'est ce qu'a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, qui est donc lui-même à l'initiative de cette nouvelle coalition avec l'Union européenne, la Norvège et bien sûr l'Arabie saoudite. Alors c'était la semaine dernière, 90 pays et près de 60 ministres des Affaires étrangères ont assisté à cette première réunion qui s'est tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Israël était convié, mais n'a pas répondu à l'invitation. Et pendant cette réunion, il a donc été question de la solution à deux États, mais pour y parvenir, il faudrait déjà reconnaître l'État palestinien, ce qu'ont déjà fait trois pays récemment. Officiellement, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège étaient au mois de mai. Et il s'agit donc maintenant pour cette nouvelle coalition de trouver d'autres nations qui seraient prêtes à en faire autant. Mais surtout, il faudrait aussi pouvoir compter sur les États-Unis qui ne font pas partie de cette fameuse coalition et qui, pour le moment, entretiennent une position assez ambiguë sur le sujet. Au mois d'avril, ils avaient rejeté en Conseil de sécurité la motion d'adhésion pleine et entière de la Palestine à l'ONU. Et dans le même temps, Joe Biden, le président des États-Unis, s'est dit plusieurs fois ouvert à une solution à deux États, mais à condition que le processus implique une négociation directe entre les deux parties, à savoir Israël et la Palestine. Denis Charbit, est-ce que vous attendez quelque chose de cette nouvelle coalition internationale? Est-ce que diplomatiquement, ça peut faire progresser les choses?
Écoutez, moi, depuis l'année dernière, je suis partisan d'une nouvelle ligne diplomatique qui consisterait à faire systématiquement un pas en avant vers la Palestine et les Palestiniens et un pas en avant vers les Israéliens. Mm-hmm. On ne peut plus être dans cette diplomatie que j'appelle hémiplégique.
Et donc ça veut dire que les deux parties doivent participer.
Alors, soit elles participent, soit elles prennent des décisions et ça peut impliquer la reconnaissance de l'État de Palestine pour autant que, parallèlement, je peux donner un exemple, mais ça peut être un autre exemple.
Reconnaissance
de Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État d'Israël. C'est-à-dire, il ne faut plus, alors c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est ça qu'il doit faire, mais je dis, il ne faut plus concevoir la diplomatie à cause du fait que les peuples sont épuisés, sont exsangues, à des degrés divers, bien entendu, sur le plan du nombre, mais il faut s'adresser au peuple, et non plus seulement aux leaders, et à ce moment-là, si on sent que les instances internationales de ce type parlent à deux voix, ne font jamais un pas vers l'un sans faire un pas vers l'autre. De quoi on a souffert? On a souffert d'un unilatéralisme systématique, où on soutenait trop Israël, où on soutenait trop la Palestine. Les deux en même temps.
Elias Sambar,
qu'on est à table face à face. Cet appel me donne presque des sourires tristes.
Ça fait 10 ans qu'il n'y avait plus de négociations entre Israël et la Palestine.
Mais ce n'est pas la question. Je peux vous raconter une toute petite histoire pour cette histoire des deux États. On n'en peut plus de cette litanie qui vient. C'est nous qui l'avons porté, le projet. Mais ça suffit. Il y a une journée très chaude à Beyrouth. Il y a des taxis sur la place centrale de la ville qui vont vers Baalbek, vers l'intérieur du pays. Et c'est des taxis collectifs où il y a 5 personnes qui viennent. Donc ils arrivent, la fraîcheur commence, le soleil n'est plus là, ils montent, ça monte jusqu'à 1200 mètres, puis ça redescend. Le chauffeur est très content, à la radio on entend Unkeltoum. Les passagers chantent, la route est vide, donc le chauffeur fait des trucs qui suivent la mélodie. Arrivé au col du Baïdar, la voiture tombe au fond de la vallée, se fracasse en 1000 morceaux. Quelques heures plus tard, des voitures commencent à passer, voir qu'il y a une voiture en miettes. Ils descendent en courant. Ils voient que la voiture a explosé, que tous les passagers sont morts, mais que la radio, miraculeusement, ne s'est pas cassée. Kaltoum chante encore. C'est ce qu'on a comme sentiment aujourd'hui. Je le dis sans ironie méchante, avec cette histoire qu'on nous rabâche, deux États. C'est fini. C'est fini, hélas, c'est fini. Arrêtons, c'est devenu une...
C'est quoi la solution, deux États?
C'est maintenant qu'il faut recommencer à réfléchir...
Un État binational
sur une chose. Ça, c'est une résultante sur le plan de la forme.
Formelle.
Non, il y a une chose, qui est une règle. Si elle n'est pas appliquée, elle ne marchera pas. C'est la question de l'égalité. Il faut que les deux parties soient de façon obsessionnelle à égalité. Et il y avait une idée que la France avait développée, que personne n'a reprise pendant les négociations. C'est Mitterrand, qui était très, 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 très favorable à Israël, qui avait dit qu'il y a deux points qu'il faut appliquer. la simultanéité et la réciprocité.
C'est ce que vous dites, c'est ce que Denis... Mais ça veut dire que, par exemple, on va voir la carte de 67,
il faut en même temps.
Des frontières de 67. Est-ce que ça doit quand même toujours servir de base à un processus de paix ou pas? Ou alors ça, même ça, c'est caduque? Parce que quand on entend Elias Sambar, on s'interroge.
Mais de toute façon, les lieux sont là où ils sont, hein, ça ne peut pas changer.
Denis Charbit, vous êtes opposé à l'annexion de la Cisjordanie, Elias Sambar aussi, la gauche israélienne aussi, ça passe par la question de la Cisjordanie, c'est la clé?
Écoutez, je suis conscient, et ça, ça fait partie des leçons de Oslo. Pour la gauche israélienne, le retrait de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, c'était un moyen de résoudre le problème de la Nakba. C'est-à-dire, on le résout par le fait que les réfugiés pourront revenir dans l'État palestinien. Et ça, il faut tenir compte, de toutes les dimensions. Il faut arrêter d'être sur une situation. Mais ce que je pense, c'est que, quand bien même cela apparaît, et là, je suis, comment dirais-je, grave en le disant, la solution à deux États fera la moitié des Israéliens mécontents et fera la moitié des Palestiniens mécontents. Parce qu'il y en a pour qui l'État d'Israël ne saurait être l'État d'Israël que s'il s'étend sur toute la Cisjordanie, la bande de Gaza avec un contrôle comme celui qu'ils exercent aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une grande partie. Moi, d'ailleurs, si je pouvais décider de quelque chose, je ferais un référendum. Je demanderais, alors avec les réfugiés...
14 millions de Palestiniens et d'Israéliens.
Quelle question vous leur posez?
Alors je poserais, est-ce que vous êtes pour la solution à deux États?
Ou
alors, aux Israéliens, est-ce que vous êtes pour l'annexion? Qu'on le sache, une bonne fois pour toutes. Ou bien, inversement, ou troisième possibilité, un État binational. Voilà. Et même chose, on poserait exactement la même question, alors pas pour l'annexion bien évidemment, ce serait from the river to the sea. Voilà. Qu'on mette une fois pour toutes, puissions être informés une fois pour toutes.
Mais si on arrive à aucun point convergent, qu'est-ce qu'on fait?
Il n'y a pas de fois pour toutes.
Où sont les hommes de bonne volonté? Pardon, mais
il y en a, bien sûr qu'il y en a.
Où sont les hommes de bonne volonté qui peuvent mener à bien une solution désespérément urgente?
On est dans une situation vertigineuse de guerre. Les Palestiniens ont quand même 41 000 civils morts, avec une majorité d'enfants. Je le dis de façon plus que grave. Ces enfants ont été assassinés, ils ne sont pas morts. Ils n'étaient pas malades, ils n'étaient pas vieux. Ces enfants tués, des milliers. Et ça, ici, vous n'en prenez pas compte, vous ne comprendrez pas à quel point la vallée, même pas la vallée, les canyons sont écartés entre les deux partenaires. Il y a un gros gâchis qui est déjà là. On ne peut pas faire juste comme si c'était une question théorique, est-ce qu'on peut faire marcher deux États, pas deux États. La deuxième chose, ça ne peut marcher qu'avec une obsession égalitaire. L'égalité est la clé, il faut être à égalité.
Très bien.
Et ça, si on ne l'a pas, si les Israéliens, même ceux qui sont pour la paix, ne pensent pas qu'ils nous donnent
une solution. Un dernier mot, c'est ça marchera que si, comme ce soir, un Palestinien et un Israélien sont côte à côte. Il faut arrêter de n'inviter que des Israéliens, de n'inviter que des Palestiniens.
Très bien.
Plus on sera ensemble, plus on convaincra que c'est possible.
Eh bien écoutez, merci à tous les deux. Et je précise que lundi prochain, le 7 octobre, on recevra deux guerrières de la paix. C'est un mouvement de femmes qui œuvre pour la réconciliation entre les Israéliens et les Palestiniens. Merci encore.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.